cachait à mon père.
Hervé Roten, bonjour.
Bonjour, Marc-Alain Wachtin.
Vous êtes ethnomusicologue, docteur en musicologie de l'université Paris 4 Sorbonne, directeur de l'Institut européen des musiques juives et auteur de nombreux articles, ouvrages et disques portant sur les divers aspects des traditions musicales juives en France et dans le monde. Vous animez aussi une émission mensuelle sur Radio Judaïque FM intitulée « Musique juive d'hier et d'aujourd'hui ». J'ai eu le plaisir de vous recevoir la semaine dernière. Nous avions abordé le thème de la liturgie juive. Nous avons découvert comment la musique et le chant est si prégnant dans la liturgie synagogale. Et vous nous avez montré, expliqué l'extrême diversité et complexité de la musique juive qui vous a conduit à préférer l'expression de musique juive au pluriel. Et vous nous avez même dit que, en fait, il y avait une immense difficulté à donner une définition à cette expression. Et ces musiques juives ne sont pas seulement synagogales, elles irriguent aussi toute la sphère domestique, vous l'aviez dit aussi la dernière fois, en particulier les repas de fête, de Shabbat, et le chant que nous venons d'entendre en introduction ici en est un bon exemple. Il est chanté à la fin du Seder de Pâques, c'est une version étonnante du Khatgadia. Hervé
oui,
Roten.
Tout à fait. Alors là, c'est une version un petit peu scénarisée, si vous me permettez l'expression. C'est pas une version traditionnelle. C'est chanté par le groupe Nekuda, qui a fait un excellent travail dessus. Et ce chant lui-même, traditionnellement, est chanté par la famille, le père, les enfants. Et c'est un chant, ce qu'on appelle cumulatif, c'est-à-dire ça raconte l'histoire d'un cabret que mon père a acheté, et puis il a mangé après le chat. À manger le chien qui a mangé le chat, etc., etc. Vous savez, ces chansons où on accumule, à chaque fois on répète la phrase et on accumule des autres phrases et à la fin, la boucle est bouclée en quelque sorte. Cette chanson, elle est répandue dans toutes les communautés juives, dans toutes les traditions. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle se chante généralement dans la langue du pays, la langue dite vernaculaire. Et là, ici, c'est une langue un peu spéciale, un cabri que avait acheté mon père. On est en fait dans le sud de la France. Les traditions dites contadines, le contat venessin, vous savez, c'est autour de Avignon, c'est Carpentras, Cavaillon, etc. Et donc, c'était les anciens états du pape. Il faut savoir que pendant des siècles, les juifs donc, ont été chassés de France à plusieurs reprises, notamment donc, dans le sud, les juifs provençaux et les juifs languedociens ont dû donc fuir et certains se sont réfugiés donc, dans les états du pape où le pape protégeait les juifs à partir de la fin du 15e siècle. À peu près. Et donc, ça a servi un petit peu de conservatoire, ce contat venessin, à ces anciennes mélodies provençales. Et là, on entend bien une sorte de judéo-provençal. Hein, c'est presque de la Languedoc. D'ailleurs, c'est chanté ici par presque des Occitans. Ça fait l'objet d'études de gens qui pratiquent ou étudient la langue occitane. Et ça, c'est une des particularités des musiques juives, c'est de servir de conservatoire à d'autres langues ou d'autres musiques. Et c'est assez passionnant parce que comme toutes les judéolangues, ben on trouve donc un mélange entre la langue du pays et puis des mots d'hébreu, bien sûr.
Alors, sur l'aspect conservatoire, on va en parler tout de suite, enfin dans quelques instants. D'abord, je voulais évoquer avec vous le fait qu'il y ait beaucoup de musique juive, et cela vous l'avez déjà dit la dernière fois, qui emprunte au milieu ambiant. Les juifs sont très friands d'acculturation, si on peut dire, c'est-à-dire qu'ils s'intègrent dans le milieu qui les accueille à travers cet exil, cette diaspora dont vous avez parlé. Et j'aimerais voir avec vous quelques exemples assez, je dirais, croustillants, si on peut dire, de cette acculturation.
נפלאות גדולות כי לניולם החווה זו
Hervé Rotten, on vient d'entendre Odou Ladonai Kitov, c'est le psaume 136, chanté ici par le Chazan, le chantre de la victoire, Adolf Attia. Et c'est un air, vous avez évoqué tout à l'heure le conte à Venessin, mm-hmm. Je crois que c'est aussi un air de cette région.
Tout à fait.
Et alors les auditeurs ont été surpris, je pense, et j'ai été heureux de vous l'apprendre parce que vous l'aviez pas remarqué, bien que ça soit dans un des disques que vous avez produit,
exact.
Que cela est extrêmement proche d'une musique que on va entendre maintenant.
C'est la même Michel qui a perdu son chat, qui crie par la fenêtre à qui le lui rendra. C'est le père Lustucru qui lui a répondu, allez ma mère Michel, votre chat n'est pas perdu sur l'air du tralala.
Alors la proximité est extraordinaire parce que si on réécoutait maintenant le psaume 136, on s'aperçoit que c'est exactement pareil, ce sont les mêmes notes, sauf qu'on a peut-être la deuxième partie, le Chazan fait la deuxième voix de la mère Michel, mais on est exactement dans le même dans la même mélodie.
Ah oui, tout à fait. Odoula Donai Kitov qui leolam chasdo, c'est la mère Michel. Donc là, c'est exactement la même mélodie. C'est amusant d'ailleurs parce que je l'avais jamais remarqué.
Oui.
Je suis tellement imprégné en fait. Vous savez, quand on enregistre, on est imprégné par l'air, par la prière et tout ça. Et j'avais pas fait attention. Mais ça, c'est un phénomène extrêmement courant et répandu dans les musiques juives. C'est ce phénomène d'intégration de mélodies entre guillemets étrangères. Là, de mélodies françaises ici, mais ça peut être des mélodies turques, des mélodies italiennes, allemandes et tout dans les prières. Ça, c'est très amusant.
Et alors là, on vient de voir une musique folklorique, si on peut dire, ou populaire. Est-ce que c'est le cas aussi de musique plus savante?
Alors oui, ça peut être le cas de musique savante, mais vous savez, la distinction entre musique savante et musique populaire, elle est souvent un peu factice, parce que parfois aussi les compositeurs de musique savante empruntent aux musiques populaires. Et là, je crois que dans l'exemple que vous allez nous montrer, c'est un peu ce qui s'est passé. Si vous me permettez, j'en dis juste un mot avant qu'on l'entende. Il se trouve que j'ai enregistré à Bayonne un vieux monsieur, on l'entend à sa voix, il chante pas très juste, mais c'est le seul peut-être qui connaissait encore les airs de Bayonne, du rite portugais, et il chante un air adodi, et il me dit, cette prière est très ancienne, elle remonte au roi David. Alors déjà, quand on me dit ça, je me méfie toujours un peu, parce qu'à moins d'avoir connu le roi David, c'est un peu dur d'en être sûr. En plus, ça ne sonnait pas du tout de l'époque du roi David. Et là-dessus, alors que j'étais à Jérusalem et que j'étais en train d'écouter cette prière, une musicologue me dit, Patia Bayer, aujourd'hui malheureusement décédée, que cet air, en fait, est un air qu'on retrouve dans beaucoup de communautés juives qui provenait, en fait, qui était joué autrefois à Jérusalem par la fanfare de ottomane, puisque c'était l'Empire ottoman à cette époque-là, au XVIIe et XVIIIe siècle, et que c'est un air très à la mode, et donc les Juifs l'avaient repris et chantaient leur air adodi dessus, et par le jeu des émissaires qui allaient circuler dans les différentes communautés pour notamment recueillir de l'argent pour les communautés juives de Palestine, on leur disait, vous qui venez de Jérusalem, la ville sainte, faites-nous l'honneur de chanter un air. Et ils chantaient ça, ils chantaient cet air. Ça plaisait aux gens et c'est comme ça que beaucoup d'airs ont circulé, qu'on les retrouve un peu partout dans le monde. C'est assez étonnant. Et ce qui est d'autant plus étonnant, c'est que cet air, ce même air, on le trouve également
Et c'est la surprise.
Voilà,
nous allons l'entendre maintenant.
Pene Shabbat Nekara Bela Shabor Bezachor Bedibur Echad Ishmenyanu Ela Meyuchad.
Hervé Rotten, je crois que après la mère Michel, c'est une belle surprise pour les auditeurs de voir que le Chadodi de Bayonne reprend en fait un air de Mozart.
Alors, c'est en fait Mozart qui a repris cet air donc turc, qui était très, très à la mode, dont j'ai parlé, et il l'a intégré dans son opéra qui s'appelle L'Enlèvement au Sérail. Donc, c'est vraiment, ça correspond tout à fait au sujet. Et c'est la fameuse marche des janissaires, où on retrouve la même mélodie. Si vous en avez entendu, il chantait pas très, très juste, mais Chamor Fesaro Bedibourera. Et on lâche Mozart, tadam, pam, 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 le même air.
On n'est pas au bout de nos surprises parce que nous venons de parler du passage de musique entre les musiques non juives vers les musiques qui, comme vous le dites, deviennent juives, mais on assiste aussi à une influence inverse des musiques juives ou composées par des juifs sur des musiques populaires ou savantes. Et vous venez de nous dire que la distinction n'est pas très très claire. Hervé Rothen, un exemple de ce passage.
Alors, il y a beaucoup, en fait, ce sont des influences croisées. Hein. Ça se fait toujours dans les deux sens. Je répète que les Juifs ont vécu souvent plus que l'on le croit en osmose avec leur environnement. Donc l'échange s'est fait de l'extérieur vers l'intérieur des communautés, mais également parfois de l'intérieur des communautés vers l'extérieur. Et en témoigne l'exemple que nous allons entendre, qui concerne en fait Jacques Offenbach. Donc tout le monde connaît Jacques Offenbach, bien sûr le père de l'opéra bouffe, des opérettes qui sont reconnues et chantées partout dans le monde, enfin, et à travers lui aussi, qui ont été utilisées pour le French Cancan. Enfin, Offenbach, c'est un monde. Et ce qu'on ne sait pas, c'est que le père de Jacques Offenbach, qui s'appelait Isaac Offenbach, en fait, c'était même Isaac Eberst, mais comme il venait de Offenbach sur le Main, il avait pris le nom de sa ville. Donc, il s'appelait donc, par la suite, Isaac Offenbach, était un compositeur de musique, et il composait, il écrivait de la musique pour la synagogue de Köln, de Cologne. Et un chercheur, Jacobo Kaufmann, a retrouvé ces partitions et il les a mis, j'allais dire, en musique et notamment mis surtout en CD. Alors malheureusement, un CD qu'on ne trouve plus, qui s'appelle « Musique de la synagogue de Isaac et Jacques Offenbach ». Et là, quelle a été ma surprise ? Parce que quand on entend les airs composés par le père, ben, on retrouve déjà des thèmes, ou en tout cas totalement l'esprit, des futures compositions très joyeuses de Jacques Offenbach.
Je reste oreille bée ou bouche bée devant ce morceau. Donc c'est Offenbach père qu'on vient d'entendre. Et là c'est encore un Lech HaDodi. Donc apparemment le Lech HaDodi, cette prière du vendredi soir, a été très prisée par les compositeurs. Et on a l'impression d'être à l'opéra ou à l'opérette.
Ah mais on est totalement à l'opérette. Et on voit que l'œuvre de Jacques Offenbach a baigné et baigne totalement dans l'œuvre de son père. Donc c'est l'influence là de la synagogue vers la société civile, vers les musiques légères. Mais vous savez que Jacques Offenbach a déjà été, quand ils sont arrivés à Paris, bon, il a fait ses études à Paris, il était très jeune, hein, mais après, quand il a voulu gagner un peu sa vie, il était engagé comme maître de musique, il était engagé par la synagogue Notre-Dame de Nazareth, qui était la grande synagogue consistoriale, pour diriger la musique. Et il n'est pas resté, même pas 6 mois, 1 an, parce que ça n'a pas été apprécié du tout qu'il aille faire jouer ses opérettes le samedi, jour de Shabbat, mais vous voyez, qu'il baignait dans cette vie juive. Et il y avait un échange sans arrêt. On pense aussi à Fromental, à Lévy, on pense à bien d'autres compositeurs de ce 19e siècle qui ont écrit à la fois pour la synagogue un peu et beaucoup plus pour le monde, j'allais dire, autour, environnant en général.
Et on n'aura pas le temps d'écouter tous les exemples parce qu'ils sont tellement nombreux. Il y a dans la Traviata, vous m'aviez dit qu'il y avait aussi aussi des reprises d'air liturgique juif. C'est le cas.
Alors oui, on va le.
Non, on va pas. On n'aura pas le temps de l'entendre. Je pensais. Simplement le donner en exemple, il y en a tellement. Alors, je voudrais revenir, si vous le voulez bien, à l'idée du conservatoire, c'est-à-dire l'idée que certaines musiques qui ont été, qui sont nées dans un milieu non juif, qui ont été empruntées par les juifs, vont être oubliées dans leur milieu d'origine et mais transmises. Ça, c'est une habitude juive d'être très fidèle à la transmission, vont être repris par les juifs et transmis. Et aujourd'hui, si on a accès à ces musiques, c'est parce que les juifs les ont transmises.
Oui, ça c'est vraiment intéressant. Alors là, vous parlez de Adieu Querida, d'une chanson judéo-espagnole.
Je voudrais donner un exemple d'une marche que vous évoquez dans votre livre, d'une marche de Napoléon. Mmh. Cette marche est connue aujourd'hui dans les milieux chassidiques sous le nom de la marche de Napoléon. Mmh. Et je ne suis pas sûr que les historiens de la musique napoléonienne connaissent cette marche, mais en tout cas, on en a accès par la musique que les Lubavitch nous proposent. Hervé Rothen, nous avons donc un exemple ici. Donc, c'est chanté vraiment pas par des professionnels.
Du tout.
C'est chanté dans un milieu chassidique. Milieux chassidiques qui ont l'habitude de chanter plus avec des aïe 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 et des oi oi oi. Et ici, c'est donc ce qu'on appelle la marche de Napoléon par les Lubavitch.
Oui, c'est ce qu'on appelle exactement des nigunim. C'est des mélodies sans paroles sur des onomatopées, aïe aïe aïe, oi oi, yababam et tout ce que vous voulez. Et ce qui est intéressant justement chez les Lubavitch, mais chez les chassidim en général, c'est que leur philosophie, qui est mystique, fait qu'on peut en fait chanter sur n'importe quel type de musique. Et ce qui compte, c'est la kavana, l'intention mystique dans laquelle on se plonge pour chanter. Et on l'entend très bien dans cet enregistrement. Ce ne sont pas des chanteurs professionnels, mais ils sont totalement dans la musique. Et le grand Rabbi Lubavitch qui vient d'arriver, qui les encourage, qui presque, vous disiez, hors antenne, orchestre leur liesse. Et on est très proche, en fait, d'un phénomène de transe collective, comme on trouve parfois chez d'autres peuples, comme les Soufis ou les Gnawa, où tout le monde reprend tellement dans la musique que ça induit une communion une transe collective. Et là, ce qui est intéressant, c'est que peu importe la musique, ici, c'est une marche napoléonienne. Alors pourquoi marche napoléonienne? Parce que lorsque Napoléon, avec ses armées, a envahi notamment la Pologne et avançait vers la Russie, il a suscité chez les Juifs d'Europe de l'Est un immense espoir, parce que Napoléon, c'était quand même celui qui avait émancipé les Juifs en France, puis partout où il y a eu des conquêtes napoléoniennes, il y a eu des consistoires et il y a eu liberté, reconnaissance de pratiquer le judaïsme et intégration, vraiment. Donc pour les Juifs d'Europe de l'Est, c'était promesse d'espoir. C'est pour ça qu'ils ont repris ces marches napoléoniennes, c'est une forme d'hommage aussi, qu'ils entendent lorsque les armées napoléoniennes arrivaient.
Alors, ce qui est intéressant, c'est que certains maîtres chassidiques, Buber le raconte très bien dans son roman qui s'appelle Gog et Magog, pensaient que Napoléon était le Messie. Je veux dire que ça va, c'est tellement important cette figure que et ça va jusque là, et donc cette marche serait conservée par les Juifs et certainement oubliée par le milieu dans lequel cette musique est née. Je pense aussi dans un autre registre à tous ces chants judéo-espagnols transmis de génération en génération, mais dont les originaux espagnols des 14e, 15e siècles ont été oubliés. Et Elias Canetti, qui est bulgare de naissance, qui écrivait en allemand, mais dont la première langue parlée en famille fut le ladino, écrit dans son autobiographie, qui s'appelle « Histoire de jeunesse », sous-titré « La langue sauvée », et un texte magnifique sur justement sur l'importance de la musique et des berceuses en cette langue. Alors, je vous lis le texte parce qu'il est très beau. « La position des séfarades espagnols », donc on est en Bulgarie, et ça souligne vraiment cette complexité dont vous parliez au début de ces deux émissions, parce que on est en fait en Europe de l'Est. On aurait l'impression que nous sommes dans une musique de type occidental, alors que en fait on est dans une musique complètement espagnole, enfin séfarade pour le coup. Et il dit donc, la position des séfarades espagnols était un peu spéciale. C'était des Juifs croyants, donc très attachés à la communauté. Mais si cette dernière était présente, quoique sans ostentation, au centre de l'existence de chacun, il n'en reste pas moins vrai qu'ils se prenaient pour des Juifs d'une espèce particulière, ceux qui étaient en rapport direct avec une longue tradition espagnole. L'espagnol qu'ils parlaient entre eux était pratiquement le même que celui qu'ils parlaient des siècles auparavant, quand on les avait chassés de la péninsule. Quelques mots turcs avaient été incorporés à cette langue, mais cela restait des mots turcs, reconnaissables comme tels, et l'on disposait d'ailleurs presque toujours du mot espagnol correspondant. Les premières chansons enfantines que j'entendis me furent chantées en espagnol. J'ai été bercé par ces anciennes romances ibériques, mais ce qui m'a le plus marqué, ce qui ne pouvait manquer d'impressionner profondément l'enfant, c'est, si je puis dire, une certaine mentalité espagnole.
Tu madre cuando te parió
Roten, nous entendons Adio Querida par Esther Ackerman. N'est-ce pas là un exemple extraordinaire de ces influences réciproques, de cette fonction conservatoire de ces musiques et de cette complexité du tissage géographique et culturel dont les musiques juives peuvent être considérées comme l'inouï révélateur?
Oui, parce que bon, quand on entend ça, en plus avec la guitare, ça nous fait tout de suite penser à l'Espagne. Il faut quand même savoir que la plupart de ces chansons étaient chantées à cappella, c'est-à-dire sans aucun accompagnement instrumental. Aujourd'hui, on est obligé, encore une fois, de rescénériser ces musiques parce qu'on n'a pas l'habitude. Mais en tout cas, on est dans l'Espagne. Simplement, si on prête attention, on entend le thème de la chanson. Ta-da-da-da. Et si on se penche vers l'opéra de Verdi, La Traviata, notamment le Adieu, et ça commence pareil, Adieu del Passato, on retrouve exactement le même thème dans La Traviata de Verdi. Alors, c'est évidemment, ce n'est pas intégralement une copie, hein, c'est toujours une source d'inspiration. Donc, c'est intéressant de le noter parce que, aussi, ça remet en question l'ancienneté, l'antiquité de ces mélodies. C'est-à-dire qu'on a toujours tendance à penser, comme je le disais tout à l'heure, que ces mélodies sont très anciennes, que ça remonte au roi David, que voilà, etc. etc. Mais c'est souvent faux. En fait, les musiques juives changent, elles évoluent au gré des modes. On n'est pas comme dans le texte biblique ou le texte liturgique qui est fixé. Les musiques, au contraire, peuvent bouger. Et ici, quand on voit que bon, la Traviata s'est écrite en 1853, ça veut dire qu'en gros, cette mélodie, elle est légèrement postérieure. Elle remonte donc à la fin du 19e siècle, pas avant. On a aussi d'autres chansons comme ça qui parlent de l'incendie d'Istanbul en judéo-espagnol. Donc c'est beaucoup plus tardif. Donc il faut un petit peu aussi démystifier cette antiquité, ce trésor des musiques juives. Au contraire, ce qui est intéressant, c'est de voir comment elles évoluent.
Et donc, votre travail d'ethnomusicologue consiste à aller sur le terrain, d'une part, d'aller recueillir, d'aller enregistrer, de classer et de publier ce que vous faites dans le cadre de votre Institut européen des musiques juives, R.E. Rothen. Comment se passe tout ce travail?
Alors, c'est un travail de fourmi. Parce que, comme vous l'avez entendu, il y a des milliers et des milliers d'airs et de musiques juives. Donc, à l'Institut européen des musiques juives, on a commencé ce travail il y a maintenant un peu plus de 8 ans. On a commencé donc à recueillir, à collecter. Alors, il y avait une association qui s'appelle Yuval qui avait déjà commencé ce travail. Et puis, la Fondation du judaïsme français avait un programme qui s'appelle Patrimoine musical des Juifs de France et qui travaillait aussi sur la valorisation, la meilleure connaissance de ce patrimoine musical juif. Il y a une collection de disques qui s'appelle Patrimoine musical des Juifs de France. Beaucoup d'exemples que nous avons entendus lors de ces deux dernières émissions proviennent de cette collection.
D'ailleurs, même la musique qu'on a entendue dans l'émission que j'avais faite avec Madame Judith Olchowicz-Langer provenait d'un de vos disques. C'était Juif et Trouvère, chanson juive du XIIIe siècle en ancien français et hébreu. Donc c'est vraiment c'est aussi un travail patrimonial, un travail de mémoire. Mais il y a aussi dans ce travail une volonté de donner la parole à des compositeurs modernes ou qui reprennent un petit peu cette...
Et à des artistes d'aujourd'hui également. C'est-à-dire que montrer que la musique juive ou les musiques juives ne relèvent pas seulement du passé, mais qu'elles continuent à vivre et qu'elles continuent à prospérer. Je pense qu'aujourd'hui, on n'a jamais eu autant de jeunes artistes intéressés par ces musiques juives et qui les font vivre. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que beaucoup de ces artistes ne sont pas juifs eux-mêmes. Comme quoi ces musiques ont vraiment une dimension universelle.
Je pensais, en parlant de musique de jeunes compositeurs, à ce disque qui s'appelle Azafea, une odyssée espagnole, qui est tout à fait passionnant parce que ça à la fois reprend ce patrimoine dont on vient de parler et en même temps ça lui donne tout de suite cette modernité et la fait voyager. Je vois par exemple le titre d'un des morceaux qui s'appelle Blues de Sepharad, mais et qui est prolongé par une gnossienne d'Éric Satie dont vous m'avez parlé, qui semble très très spéciale.
Alors là, là, il y a vraiment une revendication artistique de prendre un morceau classique, la gnossienne de Satie que tout le monde connaît, et d'en faire une musique véritablement juive, mais alors qui est complètement mélangée. Là, on est dans le courant actuel de la world music, des musiques de fusion, puisque cette musique classique devient une musique klezmer avec un petit peu de marocain. Enfin, ça part dans tous les sens et
alors,
c'est complètement
déjanté. On n'a pas eu le temps d'évoquer justement toutes les autres musiques. Il y avait cette musique très connue, qu'on entend beaucoup aujourd'hui, qui est la musique klezmer. Je suis sûr, Hervé Rothen, que nous aurons l'occasion de poursuivre cette joyeuse et studieuse conversation lors d'une prochaine émission. En tout cas, merci pour ce passionnant voyage et ces
merci
escales
à
travers les musiques juives que les auditeurs pourront poursuivre en visitant le site très richement documenté de votre Institut européen des musiques juives, qui propose d'ailleurs de très nombreux morceaux à l'écoute, et les auditeurs pourront aussi découvrir votre tout aussi admirable livre qui s'appelle « Musique liturgique juive » paru en 98 chez Actes Sud et qui sera bientôt réédité, mais on peut le trouver en bibliothèque. C'était Talmudique, une émission de Marc-Alain Waknin préparée avec Françoise-Anne Ménager. À la prise de son aujourd'hui, géant Richard Dufour, réalisation Dany Journeau. Vous retrouverez toutes les références musicales et bibliographiques sur le site de l'émission. Je vous souhaite à tous de bonnes fêtes de Sukkot et de Simchat Torah. Kol Tov, Leitraot, bon dimanche et à la semaine prochaine.